franceinter.fr.
André Breton.
Apollinaire s'était donné pour devise « J'émerveille ». Aujourd'hui encore, il me paraît certain que cette devise eût été un écueil pour tout autre, que nul autre n'eût été en mesure de justifier une telle prétention. Une telle gageure, il fallait être quelqu'un d'unique pour la tenir.
Ça peut pas faire de mal.
Et pourtant, quand j'avais 20 ans, Apollinaire n'avait qu'à se faire entendre pour me transporter dans le monde des merveilles, en ces très mystérieux confins de la légende et de l'histoire où il avait pied. Ces lieux que les hommes n'entrevoient qu'à grand-peine lui étaient découverts. Devant son regard intérieur, il s'étendait à perte de vue.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Vous ayant dit ce matin que je vous aimais, ma voisine, d'hier soir, j'éprouve maintenant moins de gêne à vous l'écrire. Je l'avais déjà senti dès ce déjeuner dans le vieux Nice où vos grands et beaux yeux de biche m'avaient tant troublé que je m'en étais allé aussitôt que possible afin d'éviter le vertige qu'il me donnait. C'est ce regard-là que je revois partout, plutôt que vos yeux de cette nuit dont mon souvenir retrouve surtout la forme et non le regard. De cette nuit bénie, j'ai avant tout gardé devant les yeux le souvenir de l'arc tendu d'une bouche entrouverte de petite fille, d'une bouche fraîche et rieuse, proférant les choses les plus raisonnables et les plus spirituelles, avec un son de voix si enchanteur qu'avec l'effroi et le regret où nous jettent les souhaits impossibles, je songeais qu'auprès d'une Louise comme vous, je n'eusse voulu être rien d'autre que le taciturne. Puissais-je encore toutefois entendre une voix dont le charme cause de si merveilleuses illusions ? 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour, si bas et si haut, que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Ainsi que vous pouvez voir, j'ai pris là, mais sans le vouloir, des précautions de désespérer, car après une minute vertigineuse d'espoir, je n'espère plus rien, sinon que vous permettiez à un poète qui vous aime plus que la vie de vous élire pour sa dame et se dire, ma voisine d'hier soir dont je baise les adorables mains, votre serviteur passionné. Guillaume Apollinaire. Cette lettre fut écrite par Guillaume Apollinaire, donc le 28 septembre 1914, et elle fut adressée à celle qu'il venait à peine de rencontrer, Louise de Coligny-Châtillon. La veille, Apollinaire se rend avec un ami dans un restaurant de Nice. Ils font la connaissance de Louise, et en quelques secondes, c'est le coup de foudre. La soirée se termine en parlant littérature et en fumant de l'opium. Puis Apollinaire rentre à son hôtel, prend sa plume et écrit à Louise une lettre. La première d'une correspondance qui en comptera des centaines. À cette époque, la jeune femme a 33 ans. Fraîchement divorcée, sans le sou, elle est de passage à Nice, hébergée chez une cousine, et travaille bénévolement à l'hôpital militaire de la ville. Très indépendante et aventureuse, elle fascine le poète qui lui déclare rapidement toute son admiration. C'est le début d'une passion aussi intense qu'éphémère, rythmée par la guerre et l'éloignement. Une passion qui va disparaître aussi vite qu'elle a débuté, mais qui demeure un des épisodes les plus marquants de la vie d'Apollinaire. Je vous propose donc ce soir de nous plonger dans ces lettres à Lou qui ont fait la légende du poète. Tout a commencé il y a exactement 100 ans, lorsque l'auteur d'Alcool est tombé amoureux de son étoile polaire. Pour son petit Lou, il écrira non seulement des lettres magnifiques, mais aussi des poèmes et des calligrammes. Nous sommes au mois d'août 1914. Guillaume Apollinaire est seul à Paris et il s'ennuie. Après 15 ans de travail acharné, il vient de publier son recueil poétique « Alcool » et se trouve désormais un peu désœuvré. Non seulement la presse et les maisons d'édition sont à l'arrêt, mais surtout tous ses amis sont partis à la guerre, sauf lui. Ce n'était pourtant pas l'envie qui lui manquait, mais sa demande a été refusée car, né en Pologne, il n'avait pas la nationalité française. Alors, quand un ami lui propose de l'accompagner sur la Côte d'Azur, il accepte, et son ennui se dissipe rapidement lorsqu'il rencontre Lou. Elle a le titre de comtesse, mais aux yeux d'Apollinaire, l'allure d'une reine. D'emblée, elle ne lui fait espérer qu'une relation amicale, maintenant ses distances et répondant à ses lettres avec courtoisie. Apollinaire n'en peut plus. Et alors qu'il brûle de désir pour elle, sa demande d'engagement est enfin acceptée. Ce départ tant souhaité pour le front est désormais imminent. Le voici rattaché au 38e régiment d'artillerie de campagne à Nîmes. Et le lendemain de son arrivée, Lou vient le rejoindre et devient sa maîtresse. Quelques jours plus tard, il lui écrit une lettre datée du 10 décembre 1914. Mon Lou adoré, je t'écris de la cantine. Le papier est déjà taché, il le sera beaucoup plus tout à l'heure, mais il n'y a qu'ici, que dans le brouhaha, que j'ai un peu de tranquillité. Ce matin, levé dans la nuit, appel dans la pluie. Entre-temps, café. Après l'appel, on nous distribue du pain et une tablette de chocolat. Le brigadier me désigne pour être de plat avec un autre poilu. À 6h30, on me montre à sceller dans l'écurie qui sent bon comme l'amour. À 8h30, au manège, où je vois mes camarades faire le tape-cul. J'irai après-midi. À 10h30, je vais chercher la soupe et le rata à la cuisine. Pas très rigolo. On bouffe. Je rapporte le plat et les saletés tout seul. Je fous le camp au plus vite pour qu'on ne me fasse pas vider ses ordures. Et voilà, Lou adoré. Je n'ai plus que quelques minutes, je mange une poire et bois une chopine. À midi moins le quart, il faut que je sois lavé et rasé. Lou adoré, je te promets de t'aimer toute ma vie et de n'aimer jamais que toi. Tu es ma seule femme à jamais et toujours, toujours, je te serai fidèle. Cette nuit, Lou, je me suis aperçu que ma chaîne s'était cassée. Toutes les médailles s'étaient répandues dans mon lit et je les ai toutes récoltées, une à une, serrées dans mon petit lit, puis je les glissais dans mon porte-monnaie. J'ai bien embrassé les tiennes. Lou exquis. Je pense à toi, à ton adorable corps, à ta chère âme si simple et si profonde. Au revoir, petit loup. À tout à l'heure. Je vais travailler. Mon loup est exquis. Mon loup est tout pour moi. Mes lèvres sont pour toujours sur les tiennes, chère. Toi, la plus chère partie de moi-même. Je bois mon dernier verre de vin à ta santé et t'embrasse de tout mon cœur. Apollinaire écrit beaucoup à Lou, une, deux, trois, parfois quatre lettres par jour. De son côté, Lou lui répond et lui raconte toute sa vie, décidant de ne rien lui cacher. Elle lui fait part de ses rencontres et même de ses aventures, et elle évoque souvent un homme surnommé Toutou, lui aussi mobilisé, mais avec lequel elle entretient une véritable relation amoureuse. Cette franchise ne dérange pas Apollinaire, du moins pour l'instant. Il veut que sa bien-aimée soit heureuse et accepte donc de la partager. Il lui donne même régulièrement de l'argent et lui a mis à disposition son appartement parisien. Voici une lettre datée du 18 décembre 1914. Mon loup à moi, j'ai reçu aujourd'hui tes lettres 2 et 3. Tu penses si je les ai lues avec avidité et avec quelle joie. Je suis content que tu aies trouvé le liseur pour Toutou. Envoie-lui mes meilleures amitiés. Moi, je t'adore. Je ne passe pas près du square où est l'hôtel du midi sans une émotion à la fois terrible et délicieuse. Cependant, je n'ai pas osé repasser près de l'hôtel même. Je ne vis qu'avec l'espoir de ma permission du jour de l'an en attendant la grande permission de la paix. J'ai battu aujourd'hui ma veste avec un martinet. Tu peux deviner ce que j'ai pensé. Mon loup chéri, je t'aime pour ta beauté si précieuse et tellement gracieuse. Je t'aime aussi et tout autant pour ta grande bonté. Ce cœur d'or qui m'a déjà donné tant de preuves d'amour et d'amitié encore, dont je te serai toujours infiniment reconnaissant. Je songe à tes yeux. Au lac de tes yeux très profonds, mon pauvre cœur se noie et fond. Là, le défond dans l'eau d'amour et de folie, souvenir et mélancolie. Je songe à ton regard de volupté et de douleur tendre qui m'a tant touché le jour où je t'ai vu la première fois, avec ton grand chapeau cavalier et ta blouse orange où s'est concentré pour moi désormais tout le soleil. Je songe à nos étreintes, à nos baisers affolés, à nos frissons, à nos tendresses, à ces tendres disputes de Saint-Jean et de Nîmes après quoi la réconciliation était si exquise. Dis-moi tout ce que tu as fait à Nice et à Baratier depuis ton retour. Tout ce que tu fais, voilà mes seules nouvelles. En toi se résume l'univers. Tu es pour moi le microcosme des scolastiques, et c'est très juste, car tu es ma beauté et par conséquent toute la nature. Oh, mon seul, mon plus grand, mon très cher amour. La vie s'écoule avec la même violente monotonie, toujours. Ce matin, de 7 à 9h30, cheval, trot, mouvement d'assouplissement au trot. Je fais des progrès, je reste toujours semblable. J'ai acheté une ceinture de flanelle et je vais bien, sauf que je n'ai pas dormi, car jusqu'à 1h du matin, j'ai été de garde dans les couloirs de la caserne par un froid qui m'a paru terrible. J'ai réagi. Ça m'a fait du bien, ça m'a trempé, cette première garde avec une consigne à exécuter. Et ça m'a même guéri du mal de ventre par la volonté que j'avais de résister au froid malgré que je n'avais pas de manteau. Ton souvenir veillait avec moi et je lui disais mon amour pour toi, mes rêves et mes espérances. À demain, ma couronne de laurier. Je t'embrasse sur toutes les feuilles, même celles qui sont à l'envers. Et je mordis délicieusement tes baies si glorieuses. Ton Guy. Lettre du 23 décembre 1914. Ma chérie, une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je crois d'une façon presque certaine que je n'aurai pas de permission pour le nouvel an. La faute en est aux compagnies de chemin de fer. Les simples soldats n'ont plus droit aux express. Dans ces conditions, il faut par train omnibus 38 heures pour aller de Nîmes à Nice. Je suis désolé. On n'accordera pas très probablement de permission pour Nice. Si on me l'accordait, je te télégraphierai. Mais n'y compte pas. J'irai demain trouver le lieutenant commandant ma batterie pour lui demander si je peux espérer avoir 48 heures vers le 15 janvier, par exemple. En tout cas, cuirassons-nous contre toutes les éventualités, même les plus désagréables. Depuis 2 jours, pas de lettre de toi. Je suis navré. Aujourd'hui, j'ai cependant reçu les oranges qui m'ont rappelé le jardin des Hespérides où tu vis, ma déesse, ma fable, ma mythologie. Je te remercie, mais j'ai vu que tu as payé 1 franc de recommandation. Ne m'envoie plus, ma chérie. C'est trop cher pour un simple soldat. Aujourd'hui, 3e chute de cheval. Je ne me suis rien fait. J'avais un cheval qui ruait. À la première ruade, je n'ai pas bronché. À la seconde, j'ai foutu le camp. La nuit, j'ai chaud dans mon petit lit, mais le matin et à 4 heures, il fait un froid de chien. Une bonne nouvelle, un soldat d'une chambre voisine, voyageur en nouveauté et qui est de Nice, m'a offert de partager la chambre qu'il a en ville et que lui prête pendant tout son séjour ici une cliente. Demain à 4 heures, je vais faire ma toilette à fond et je pourrai garder là quelques affaires, des lettres ou autre chose. La vie de caserne est rudement emmerdante. Je ne te cache pas que si tu me relèves de la promesse que je t'ai faite, je demanderai à partir pour le front le plus tôt possible. Au moins, plus d'imprévus, plus d'aventures et moins de tracasseries. Ma toute chérie, aime-moi bien. Écris-moi. Si je ne t'avais pas, si tu n'étais ma constellation, mon étoile polaire, mon guide, je serais sans ressort et me laisserais aller à l'abrutissement inhérent de la vie de caserne. Mais je songe à ton joli corps de fée, à ta tendresse, à ce cœur si noble et si pur qui palpite en toi. Je me reprends alors à espérer. Je crois en toi, ma chérie. Tu es ma foi, mon espérance et mon amour. Prie pour moi, puisque tu es croyante, et espérons bien vite des victoires où j'ai ma part, afin que tu puisses être aussi fière de moi que je suis fière de toi. Mon amour exquis, donne-moi aussi des nouvelles de Toutou, qui par son amour pour toi et par celui que tu as pour lui est désormais pour moi une partie de moi-même. À nous deux, nous serons tant aimés et te domptés, belle rétive, que tu seras la plus heureuse des femmes entre les plus heureux des hommes. Je te baise partout et prends toute la volupté en un spasme que je souhaite éperdument. Si tu savais comme j'ai envie de toi.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Finalement, Apollinaire parvient à obtenir une permission et rejoint Lou pour le jour de l'an 1915. Les deux amants passent 48 heures ensemble, deux jours merveilleux et deux nuits de folie, écrira le poète qui ne vit maintenant que pour cette femme et semble n'avoir jamais autant aimé. Même son grand amour, Marie-Laurent Saint, disciple de Matisse et Picasso, n'est qu'un pâle souvenir. Voici la lettre du 13 janvier 1915. Mon loup, reçu ta lettre du 10 et tu peux penser si l'histoire du capitaine Foutriquet m'a amusé. Ne te désespère pas pour toutou et puisque l'histoire du parent malade va compliquer les choses, renonce-y. Vois toi-même. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de conseils à ce propos, loup adoré, parce qu'ici on n'a aucun renseignement, sauf qu'il paraît que les permissions se donnent beaucoup plus difficilement maintenant qu'avant le nouvel an. Je suis grippé depuis hier. Je vais prendre des tisanes, des comprimés d'aspirine à l'infirmerie où l'on est très gentil. Aujourd'hui, on nous a félicité de nos succès d'examen. Tu parles si je suis content. Maintenant, j'ai encore un scrupule malgré ce que tu peux dire, car il paraît que même si je réussis à devenir officier, je ne partirai pas sur le front avant 6 mois, peut-être 8. Qu'en penses-tu, sérieusement et sans égoïsme, mon loup ? Écris-le-moi. Aujourd'hui, champ de tir, on nous a fait aller sur les arrière-trains comme servants et je t'assure qu'on est rudement mal sur ces arrière-trains. Loup, encore une fois, je veux que tu ne fasses pas menottes trop souvent. Je vais être jaloux de ton doigt. Je veux que tu me dises quand tu t'es fait menottes et que tu résistes un peu. Je serai obligé de te corriger. Tu ne fais aucun effort de ce côté. Tu es merveilleusement jolie. Je ne veux pas que tu te fanes en t'épuisant par les plaisirs solitaires. Je veux te revoir épatamment fraîche, sans quoi tu recevras des claques comme un écolier qui s'est branlé au lieu d'apprendre ses leçons. Quand on était au collège, on faisait un trou à sa poche droite, on passait la main et on faisait ça pendant toute l'étude, yeux cernés. Mais je ne veux pas qu'une grande fille comme toi, qui a un cul superbe et a déjà fait cornard son mari, se branle comme un petit garçon passage. Si tu fais ainsi, c'est le fouet que tu auras, ma gosse. Le fouet pour te mater. Tu auras beau faire métalliser ton derrière, je te fesserai jusqu'au sang, de manière que tu ne puisses plus t'asseoir. Ton cul paiera pour ton petit con, ma chérie. Je te désire éperdument, je n'en puis plus. Je ne sais si on donnera une permission pour Nice avant longtemps. Il me tarde que tu sois là. Si tu savais comme j'ai envie de faire l'amour, c'est inimaginable. C'est à chaque instant la tentation de Saint-Antoine. Tes totos chéris, ton cul splendide, tes poils, ton trou de balle, l'intérieur si animé, si doux et si serré de ta petite sœur. Je passe mon temps à penser à ça, à ta bouche, à tes narines. C'est un véritable supplice. C'est extraordinaire ce que je peux te désirer. Tu m'as fait oublier mes anciennes maîtresses à un point inimaginable. Pourtant, elles étaient jolies. Je ne les vois plus que comme de la merde. L'anglaise, qui était épatante, blonde comme la lune, des tétons épatants, gros et fermes et droits, qui bandaient dès qu'on les touchait et la mettaient de suite en chaleur, un cul mirobolant, énorme et une taille mince à ravir, elle n'est plus rien. Marie-Laurencin, ravissamment faite, un des plus gros derrières du monde que je transperçais avec un acre de plaisir, elle n'est plus que du crottin. Toi seul, mon loup adoré, ma chère captive, ma chère fouettée, toi seul existe. Mon loup, je me souviens de notre 69 épatant à Grasse. Quand on se reverra, on recommencera. Si ça continue, je me demande si je ne serai pas obligé de me faire menotte moi aussi en ton honneur. C'est tout de même malheureux d'être privé de toi. Le désir au fur et à mesure qu'il s'accroît devient un supplice. Je te couvre de baisers partout. Tes chers pieds que j'aime tant, je leur fais petit salé entre chaque doigt. Je remonte le long du mollet que je mordille. Tes belles cuisses, je m'arrête au centre et parcours longtemps de la langue la cloison qui sépare tes deux trous adorés. Je les adore toutes les 9 portes sacrées de ton corps. Le vagin royal où bouillonne la cyprine voluptueuse que tu me prodigues, oh chérie, et d'où s'épanche l'or en fusion de ton pipi mignon. L'anus plissé et jaune comme un chinois où pénétrant je t'ai fait crier de douleur âcre. La bouche adorable où ta salive a le goût des fruits que j'aime le mieux. Les deux narines où j'ai mis ma langue et qui ont une saveur salée délicieusement délicate. Et ces deux oreilles si chaudes, si nerveuses. Les 9 portes de ton corps sont les entrées merveilleuses du plus beau, du plus noble palais du monde, que je l'aime, ma chérie. J'oubliais tes yeux chauds et salés comme la mer et plus profonds que ces gouffres. 9 portes, oh, mes 9 muses, quand vous entre-ouvrirai-je encore? ma chérie, tu ne peux imaginer à quel point je te voudrais. Dis-moi, quels sont ces amis à toi qui sont maintenant à Nice, Lou? Je ne veux pas que tu t'ennuies, amuse-toi. Je ne veux pas que tu t'embêtes, mais je ne veux pas non plus que tu ailles plus loin que tu ne le dois. Et ça, tu le sais toi-même. Mais Lou, pas trop de menottes. Écris, fais quelque chose. Je t'embrasse, je t'aime, je t'adore, je te suce, je te baise, je t'encule, je te lèche, je te fais feuilles de rose, boules de neige, tout, 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 absolument tout, mon adoré, je te prends toute. Ton Guy. Si Apollinaire ne cesse de déclarer son amour à Lou, celle-ci ne manifeste pas autant d'enthousiasme. Lou reçoit plus de lettres qu'elle n'en envoie, et ce comportement attriste beaucoup Apollinaire qui met la jeune femme sur un piédestal. Il est passionnément amoureux d'elle, mais il souffre aussi terriblement, non seulement de son absence, mais aussi de son silence. Lettre du 30 janvier 1915. Hier, après t'avoir écrit à midi, scellé, nous avons été loin, sauter des murs, passer parmi les arbres, beaucoup, beaucoup de trop, puis recherche d'emplacement, de batterie, etc. Retour à 5 heures. Sorti. Au Tortoni, causé avec un médecin-major des Sénégalais, retour du front et passant ici pour vérifier les inaptes. Il m'a dit que c'était une vraie boucherie et que chez les Sénégalais, le cadre gradé, entièrement sacrifié. Médecin à 300 mètres du feu, parce qu'officiers savent que leurs hommes ne les relèveront pas et veulent sentir les médecins tout près. On forme en Algérie 40 régiments de nègres. Après, coucher, était raconté la nuit. Ce matin, il dit au revoir à ceux qui partaient sur le front et que je connaissais. Ils étaient contents. J'avais presque envie de demander à les suivre comme servants. Car ce peloton que je suis est dur. Je n'ose le comparer à l'enfer, mais c'est un vrai purgatoire. Et je t'assure que je ne suis pas seul à penser ainsi. Maintenant, sitôt l'être fini, va aller sceller pour la seconde fois, car avons fait 2 heures manège ce matin, puis mathématiques d'artillerie théorique. Mon Lou adoré, je m'embête, loin de toi, je m'embête. Toi, j'espère que tu t'amuses beaucoup, que tu t'excites, que tu passes le temps par conséquent le mieux possible pour une gentille Lou comme tu l'es. Je ne peux pas demander la journée demain car on a supprimé les permissions pour toute la batterie à cause de type manquant à l'appel le matin. Demain, vais me lever à 7h, vais t'écrire jusqu'à 11h et ficherai le camp en ville pour y mieux penser à toi. Il est l'heure, Lou. Je t'embrasse 1000 fois. Mon Lou, je t'aime à l'infini. J'espère une belle lettre de toi ce soir. Je pense à tes yeux qui m'ont appris à aimer. Je t'embrasse 1000 fois. Tu sais, je veux que tu gardes mes lettres. Mais veux pas que tu les montres à qui que ce soit. Guy. 4 jours, mon amour, pas de lettre de toi. Le jour n'existe plus, le soleil s'est noyé. La caserne est changée en maison de l'effroi. Et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Que t'est-il arrivé? Souffres-tu, ma chérie? Pleures-tu? Tu m'avais bien promis de m'écrire. Lance ta lettre au but de ton artillerie qui doit me redonner la vie et le sourire. 8 fois déjà le vague maître a répondu « Pas de lettre pour vous » et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu que nous vîmes ensemble, ô mon cœur adoré. En souvenir de toi, longtemps je le caresse. Je crois qu'il se souvient du jour où nous le vîmes, car il me lèche et me regarde avec tendresse. Et c'est le seul ami que je connaisse à Nîmes. Sans nouvelles de toi, je suis désespéré. Que fais-tu? Je voudrais une lettre demain. Le jour s'est assombri, qu'il devienne doré. Et tristement, Malou, je te baise la main. Je ne sais plus que penser, je suis triste. Je n'écoute plus les cours avec ardeur. Je m'embête. Malou, m'oublie-t-elle? C'est insensé, ce qu'on peut être inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es parti dans un tel état de surexcitation que je me demande ce qui est arrivé à tout point de vue. Écris. Sacré nom d'une pipe, écris-moi. Si tu crois que Nîmes a de quoi vous consoler de l'attente d'une lettre, tu te mets le doigt dans l'œil. Écris donc, Lou. Je suis furieux que tu me laisses ainsi dans l'inquiétude malgré tes promesses. Lou, les postes peuvent-elles avoir de si longs retards? C'est insensé, je suis comme un train qui va partir, je boue d'impatience. Écris donc! Dis quand tu reviens, écris, écris. Cette attente est insupportable, ceci est ma 3e lettre depuis que tu as quitté le bord de la mer et le jardin désespéré d'où tu vivais. Je te prends toute ma bouche dans la tienne. Et la situation malheureusement ne s'arrange pas. Apollinaire, dont le quotidien est de jour en jour plus difficile, commence à désespérer. Il se rend compte que les sentiments qu'il a pour Lou ne sont pas partagés, qu'elle n'a pas besoin de lui autant qu'il a besoin d'elle. Avec ses amis du front, il fait le fier, leur raconte qu'il n'est pas amoureux et que c'est une conquête parmi d'autres. Mais dans les lettres qu'il envoie à Lou, il parle de sa souffrance et lui reproche de ne pas tenir ses promesses. Lou devait venir le rejoindre, ce qu'elle n'a pas fait à temps. Lui, de son côté, a refusé une mission qu'il aurait aimé accomplir juste pour la voir. Voici la lettre de rupture qu'il lui adresse le 17 mars 1915. Ma chère amie, n'en parlons plus. Tu as bien fait. Tout ce que tu fais est bien et il n'y a rien à y redire. N'empêche que tu m'as fait être lâche pour la première fois de ma vie. Car toi qui as de si bons tuyaux, tu ne sais rien sur ce qui se passe à notre dépôt de Nîmes. Je fais partie d'une division spéciale de OR formée par le colonel et par les commandants des deux régiments de Nîmes. Elle n'a rien d'officiel, on y a mis les gens distingués de 30 ans et au-dessus. Nous devions passer par tous les grades jusqu'à celui de sous-lieutenant, une fois passé l'examen de chef de section, mais la circulaire du ministre parue vers le 10 février a tout changé, et comme nous n'avons aucune existence officielle, nous continuons le cours par grâce des commandants, mais sommes à la disposition de nos batteries pour les départs, une fois 3 mois de service. J'y suis. On a passé la visite le lundi, on formait une batterie de 90 pour aller à Bizerte et de là en Turquie. On a demandé à notre peloton de volontaires pour partir comme brigadier faisant fonction de logis. On en demandait 2 et ce sont 2 autres qui partent, pas moi. Car lâche que j'étais, je n'avais pas de tes nouvelles et en espérais. Voilà, ma chère amie, où peut conduire la passion. Je ne me le pardonnerai jamais et fera tout mon possible pour réparer cette faute et partir, puisque tu ne m'aimes plus, même comme deuxième conducteur avec la batterie de 120 qui va être formée bientôt. Tout cela d'ailleurs ne t'intéresse pas. D'autre part, sans te demander autre chose, je te demande même maintenant que je ne veux plus t'aimer et veux être guéri de toi comme ultime satisfaction de quitter le front où tu n'es pas à ta place, où tu dois donner du souci à tout le monde et en particulier à Toutou. Je ne te demande nullement de venir me trouver, sacrifice fait. Non, ne viens pas ici, c'est absolument inutile puisque tu ne m'aimes pas et que bientôt je ne t'aimerai plus non plus. Mais pars de là-bas pour ma tranquillité, pour que je puisse travailler avec courage. Tu m'as anéanti pendant ces 2 mois. Si je n'ai pas eu une fièvre cérébrale, ce n'est pas de ta faute, mais je suis en plein dans l'anémie cérébrale. Je comprends tous tes sentiments et les respecte, mais de ton côté, rends-toi compte de ce que j'ai pu souffrir. Dimanche, à bout de force, après je ne sais combien de jours sans nouvelles, j'ai envoyé 4 recommandés à Toutou pour avoir nouvelles et envoyé lettre, non compromettante pour toi, à Jules pour savoir si tu étais en bonne santé. Enfin, si je n'avais pas eu de lettre de toi aujourd'hui, 17, date fixée par toi pour ta venue, je me tuais demain 18. Maintenant, c'est fini, je ne veux plus t'aimer, on souffre. Puis on apprend à ne plus souffrir. Pour notre rencontre à Marseille, car c'est là que tu me fixeras sans aucun doute, par dernière ironie, un illusoire et dernier rendez-vous, n'y compte pas. On ne donne plus de permission pour Marseille, à moins d'un cas de force majeure, et je n'en trouverai aucun en l'occurrence. Ne me crois pas méchant, ma chère amie. Je ne t'ai pas aimé égoïstement, tu te trompes, et me fais injure bien gratuitement. Si je t'ai demandé de revenir, c'est surtout à cause des dangers que je savais et que Toutou ne me cachait pas dans les mots qu'il joignait à tes lettres. Je ne t'en ai rien dit pour ne pas t'épouvanter toi-même. Bref, je ne demande absolument rien pour moi. Mais reviens. Ne viens pas ici. Va où tu veux, tu es libre. Fais ce que tu veux, puisque tu ne m'aimes pas. Tu peux bien aimer qui tu veux. Mais ôte-moi le souci de te savoir là-haut. Je ne te demande que cela. Si tu vas à Paris, mets chez ma concierge 202 boulevard Saint-Germain mes lettres et aussi celles que tu m'as écrites, qui m'appartiennent, à moins que tu ne veuilles pas me donner ces lettres que j'aurais toujours relues avec plaisir comme un exquis monument de ma vie en 1914-1915. En ce cas, tu es encore libre d'agir comme tu veux. Je ne t'en veux nullement. Tu as embelli ma vie pendant quelques mois. Tu m'as fait des serments qui m'ont exalté. Ils m'ont mis quelque temps au-dessus des autres hommes. J'y ai cru et été heureux. Donc je dois t'en être et t'en suis extrêmement reconnaissant. Je serai toujours, si tu veux, ton ami, et même sans amour tu peux, étant femme et au nom des souvenirs que ton nom m'évoque, compter sur moi en tout et pour tout, sauf naturellement que si je ne t'aime plus, comme ma volonté le fera en quelques jours, je ferai toutes les choses que tu as droit d'exiger de moi. Je les ferai, dis-je, amicalement et non plus amoureusement. J'aime beaucoup Toutou, cher ami, mais je souffre un peu, plus beaucoup maintenant, d'être toujours la 5e roue à ta voiture. J'aime bien qu'il soit tout, mais c'est un peu embêtant de n'être rien du tout. Enfin, ne te fais pas de bile pour moi, si tant est que tu t'en sois jamais fait. Je ne suis plus fâché, plus du tout. Lorsque l'amour meurt, je suis seulement encore très inquiet à cause des dangers que tu cours et cette inquiétude me rend malade. Je n'ai mis, je crois, dans cette lettre que la vérité. Mais si tu me trouvais injuste à ton égard, déchire-la, et voilà. Malgré cette décision, leur correspondance ne s'interrompt pas. Par désir et par habitude aussi, Apollinaire continue d'écrire à Lou. Il ne se fait plus aucune illusion sur leur amour et se porte volontaire pour partir dans les tranchées en tant que canonnier de première classe. Le voici soldat comme les autres, dans la boue, mais toujours poète, comme en témoigne cette lettre du 5 avril 1915, adressée à celle qui ne quitte pas ses pensées. Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Il y a un beau petit cottage dans un jardin. Il y a 6 soldats qui s'amusent comme des fous. Il y a mes yeux qui cherchent ton image. Il y a un petit bois charmant sur la colline. Et un vieux territorial pisse quand nous passons. Il y a un poète qui rêve au petit loup. Il y a un petit loup exquis dans ce grand Paris. Il y a une batterie dans une forêt. Il y a un berger qui paie ses moutons. Il y a ma vie qui t'appartient. Il y a mon porte-plume réservoir qui court, qui court. Il y a un rideau de peupliers délicat, délicat. Il y a toute ma vie passée qui est bien passée. Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés. Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades. Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine. Il y a des wagons belges sur la voie. Il y a mon amour. Il y a toute la vie. Je t'adore. Au revoir, mon petit loup. Guy. Apollinaire, canonnier puis brigadier apprend à faire la guerre. Lou, elle, mène une vie confortable à Paris dans l'appartement d'Apollinaire qu'elle occupe toujours sur le boulevard Saint-Germain. Le poète continue de lui écrire et a également commencé une autre correspondance avec une certaine Madeleine Pagès, jeune fille rencontrée dans le train et dont il va vite s'éprendre. Mais les lettres qu'il envoie à Lou sont comme une drogue, quelque chose qui le maintient en vie, même si elle demeure souvent sans réponse. Lettre du 12 avril 1915. Mon Lou, pas de lettre encore. Le temps est long. Aujourd'hui était aux tranchées. Suis fatigué. Espère dormir car n'ai pas dormi depuis que je suis ici. Mais pas d'obus. La canonnade pète toujours mais assez lointaine. Aux tranchées c'est fantastique. Les tranchées des fantassins. Nos batteries sont à 1100 mètres des tranchées Bosch. Donc c'est pas loin. L'adjudant observateur d'artillerie, faut le trouver. Et pour un novice, pas facile. Boyau étonnant. Il paraît que les tranchées de notre secteur sont les plus belles du front. Boyau Bonaparte, boyau du commandant, que sais-je. C'est, je te dis, fantastique. Au bout, tout créneau comme au Moyen-Âge. On voit les Boches à 140-150 mètres. Gourbis, cuisine ouverte de mousse, trou de repos profond de 12 mètres. Ah, mon loup. Faut l'avoir vu pour s'en faire une idée. Évidemment, toi qui as été voir Toutou, tu sais tout ça. Je ne te l'écris que pour me relire après la guerre et garder la mémoire de tout cela qu'aucun journal n'a décrit. Formidable tout cela. À ne pas croire si on ne l'a pas vu. Et la terre marneuse de la Champagne, sur soi, sur les fantassins. Pas d'attaque en ce moment. J'espère avoir l'occasion d'y aller au moment du feu. Mais nom d'une pipe, de nom d'une pipe, ces créneaux sont à donner le cauchemar. Le colonel d'infanterie n'est pas là naturellement et t'as rien à craindre pour Toutou, à moins qu'il ne fasse absolument le même métier que moi. Il paraît que j'aurais à lui porter souvent des notes, mais je ne lui suis pas spécialement affecté. C'est là un poste plus tranquille et qui mène plus facilement aux honneurs. Le mien ne mène qu'à l'honneur. Tous les soirs à 9h, je vais aux tranchées porter les lettres le matin au commandant. Ça change tout de même de tout, même de toi. Enfin, petit loup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Une seule chose importe, c'est que je supporte l'humidité de ce bois marécageux. Maintenant, je te sens près de moi comme jadis, toute petite dans mes bras, me racontant tes choses gentilles, me donnant ta bouche, ta langue savoureuse. Dis-moi, quand coulichonnette, ça me rapprochera de toi de savoir tes affaires. Petit loup, pourquoi donc t'es si méchante quand on t'aime? T'es aussi rigolote que la guerre. Tu sais que je ne t'en veux pas parce que je sais bien que je te rorai. Mais enfin, t'es trop méchante et ça vaut vraiment pas la peine d'être méchante avec ton Guy qui demande pas mieux que tout ce que tu veux, même à son détriment. T'aimerais peut-être mieux si tu m'aimais, mais t'aimerais peut-être pas plus. Enfin, t'as raison, t'es mon petit loup quand même, et tu ne le sais que trop, petite vache. La lampe à la lueur de quoi je t'écris est un verre suspendu sur un car attaché à un fil de fer. Elle est alimentée par de la graisse de bœuf gardée par les hommes et rognée sur leur ration, puis fondue. La mèche est constituée par le brin d'un bonnet coton appartenant à un poilu de ma pièce qui l'a destiné pour cet usage. Mon petit loup, un feu de chêne à gauche, un tronc d'arbre pour écrire, la veilleuse devant, et je t'adore. Journaux, on ne sait plus ce que c'est. On lit vaguement le communiqué, mais on peut se flatter que ce qu'on t'a dit quand t'as été voir Toutou est de la couillonnade pure et simple. Tu verras ce que je te dis. Je m'épate qu'un homme intelligent comme celui que tu dis ait pu énoncer des choses aussi bêtes, mon pauvre petit loup. Il y a bien des gens bêtes dont tu te doutes pas. Cependant, toi, t'es pas bête, mais snob épouvantablement. Ça t'empêche de bien comprendre la vie, le vice, et peut-être même l'amour, et ça t'empêche surtout d'être vraiment heureuse. Tu verras ça. J'aurai ma revanche. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Tu veux rien comprendre ni à ce que je suis, ni à ce que je puis être. C'est peut-être ton tort. Car peut-être ton désamour m'empêchera-t-il d'être tout ce que je voulais être. Et par toi, j'aurais pu être plus qu'un, que deux, que mille hommes. Mais n'en parlons plus. Tout ça a perdu, enterré, foutu. Ainsi va la vie, à cause des femmes. T'embrasse fort, vive la France, Guy.
Jean Cocteau.
Il y a deux façons d'envisager la guerre. Il y a celle du feu, de Barbus, la boue, les poilus, et il y a celle d'un grand poète de Guillaume Apollinaire. Il voyait des hommes de faïence et de clair de lune sous des fusées pâles. Il envoyait à Rouvert des cartes postales ravissantes. Il s'écriait « Ah, que la guerre est donc jolie !» J'avoue que cette forme d'héroïsme est beaucoup plus proche de ma personne. La guerre était pour lui une chose gracieuse et dangereuse dans laquelle il se promenait avec cette démarche de ballon captif qu'il avait. Et je ne connaissais pas encore Apollinaire ni ses poèmes sur la guerre, mais je dois dire qu'il a eu sur moi une pré-influence.
Automne, malade et adoré. Tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roses. Quand il aura neigé dans les vergers, pauvre automne, meurt en blancheur et en richesse. Et de fruits mûrs au fond du ciel, des éperviers planent sur les nixettes aux cheveux verts et naines qui n'ont jamais aimé. Aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé. Et que j'aime, ô saison, que j'aime tes rumeurs, les fruits tombants. Sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleurent toutes leurs larmes en automne, feuille à feuille. Les feuilles confondent un train qui roule. La vie s'écoule.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Voici maintenant un poème qu'il lui écrit le 22 avril 1915. Durant cette période, Apollinaire rédige plusieurs poèmes qu'il envoie simultanément à la fois à Lou et à Madeleine. Lou n'est pas au courant de la relation qui est en train de s'installer entre Apollinaire et sa nouvelle amante. Apollinaire ne veut rien lui dire. Le poème suivant s'intitule « Guy chante Lou ». Mon petit Lou adoré, je voudrais mourir un jour pour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune pour que tu m'aimes. Je voudrais que la guerre recommençât pour que tu m'aimes. Je voudrais te prendre pour que tu m'aimes. Je voudrais te fesser pour que tu m'aimes. Je voudrais te faire mal pour que tu m'aimes. Je voudrais que nous soyons seuls dans une chambre d'hôtel à Grasse pour que tu m'aimes. Je voudrais que nous soyons seuls dans mon petit bureau près de la terrasse, couchés sur le lit de fumerie pour que tu m'aimes. Je voudrais que tu sois ma sœur pour t'aimer incessieusement. Je voudrais que tu eusses été ma cousine pour qu'on se soit aimé très jeune. Je voudrais que tu sois mon cheval pour te chevaucher longtemps, longtemps. Je voudrais que tu sois mon cœur pour te sentir toujours en moi. Je voudrais que tu sois le paradis ou l'enfer selon le lieu où j'aille. Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres. Je voudrais que tu sois ma vie pour être toi seul. Je voudrais que tu sois un obus boche pour me tuer d'un soudain amour. Voici un extrait d'une lettre datant probablement de mai 1915. C'est un chant du cygne. Le poète constate avec amertume la fin d'un amour qui fut certainement le plus grand de toute sa vie. L'amour, le dédain et l'espérance. Je t'ai prise contre ma poitrine comme une colombe qu'une petite fille étouffe sans le savoir. Je t'ai prise avec toute la beauté plus riche que tous les placés de la Californie ne le furent au temps de la fièvre de l'or. J'ai empli mon avidité sensuelle de ton sourire, de tes regards, de tes frémissements. J'ai eu à moi, à ma disposition, ton orgueil, même quand je te tenais courbé et que tu subissais ma puissance et ma domination. J'ai cru prendre tout cela, ce n'était qu'un prestige. Et je demeure semblable à Ixion après qu'il eut fait l'amour avec le fantôme de Nuée, fait à la semblable de celle qu'on appelle Héra ou bien Junon l'Invisible. Et qui peut prendre, qui peut saisir des nuages? Qui peut mettre la main sur un mirage? Et qu'il se trompe celui-là qui croit emplir ses bras de l'azur céleste? J'ai bien cru prendre toute ta beauté et je n'ai eu que ton corps. Le corps, hélas, n'a pas l'éternité. Le corps a la fonction de jouir, mais il n'a pas l'amour. Et c'est en vain maintenant que j'essaye d'étreindre ton esprit. Il fuit. Il me fuit de toutes parts comme un nœud de couleuvre qui se dénoue, et tes beaux bras sur l'horizon lointain sont des serpents couleur d'aurore qui se lovent en signe d'adieu. Je reste confus, je demeure confondu. Je me sens las de cet amour que tu dédaignes. Je suis honteux de cet amour que tu méprises tant. Le corps ne va pas sans l'âme. Et comment pourrais-je espérer rejoindre ton corps de naguère puisque ton âme était si éloignée de moi? Comme font tous les corps vivants, ô toi que je n'ai possédé que morte. Et malgré tout, cependant que parfois je regarde au loin s'y vient le vague mestre, et que j'attends comme un délice ta lettre quotidienne, mon cœur bondit comme un chevreuil lorsque je vois venir le messager. Et j'imagine alors des choses impossibles puisque ton cœur n'est pas avec moi. Et j'imagine alors que nous allons nous embarquer, tous deux, tout seul peut-être trois, et que jamais personne au monde ne saura rien de notre cher voyage vers rien, mais vers ailleurs et pour toujours. Sur cette mer plus bleue encore, plus bleue que tout le bleu du monde, sur cette mer où jamais l'on ne crierait « terre ». Pour ton attentive beauté, mes chants plus purs que toutes les paroles montraient, plus libres encore que les flots. Est-il trop tard, mon cœur, pour ce mystérieux voyage ? La barque nous attend, c'est notre imagination. Et la réalité nous rejoindra un jour si les âmes se sont rejointes pour le trop beau pèlerinage. Allons, mon cœur d'homme, la lampe va s'éteindre. Verse-y ton sang. Allons, ma vie, alimente cette lampe d'amour. Allons, canon, ouvrez la route. Et qu'il arrive enfin le temps victorieux, le cher temps du retour. Je donne à mon espoir mes yeux, ces pierreries. Je donne à mon espoir mes mains, palmes de victoire. Je donne à mon espoir mes pieds, char de triomphe. Je donne à mon espoir ma bouche, ce baiser. Je donne à mon espoir mes narines, qu'embaument les fleurs de la mi-mai. Je donne à mon espoir mon cœur en ex-voto. Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin, dans la forêt. Voici pour conclure la dernière lettre qu'Apollinaire adresse à Lou le 18 janvier 1916. Depuis le mois d'août 1915, il est fiancé à Madeleine. Lou, qui vit avec Toutou, n'est qu'un lointain souvenir, mais il se donne toujours des nouvelles. Autour de permission, je trouve tes deux lettres. Entendu pour les trucs, ce sera lors de ton prochain voyage. Moi, j'ai fait voyage épatant. Je te l'ai souhaité bonne et heureuse par l'entremise de Toutou, car je ne savais si tu étais toujours à Lunéville. J'espère que cette lettre t'y trouvera. J'ai beaucoup de travail en ce moment, étant pour l'instant commandant de compagnie. Je suis content que tu sois contente. Embrasse Toutou de ma part. Il fait assez beau. Écris-moi de tes nouvelles. Je te souhaite de belles amours et beaucoup de bonheur. Guy. Quelques mois plus tard, Apollinaire est enfin naturalisé français, mais il ne va pas en profiter longtemps. Le 17 mars 1916, il est touché à la tempe par un éclat d'obus qui l'oblige à rentrer à Paris. Affaibli, il trouve encore la force de publier « Calligramme » et d'épouser non pas Madeleine, mais une certaine Jacqueline. Il n'a plus aucune nouvelle de Lou. Il meurt en novembre 1918, à l'âge de 38 ans, emporté par la grippe espagnole.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Alain Joubert à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laurel Maki et Irène Menahem. Bonne journée et à demain.